Merci Frédéric Dorel. Prochain rendez-vous avec l'info à 15h.
Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie, Sylvia Depierre.
Bienvenue dans cette année-là, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 17 octobre. Notre invité aujourd'hui est Arnaud Guérin, géologue, photographe, auteur, consultant en environnement, guide de voyage. Il présente ce dimanche au Grand Bivouac d'Albertville une conférence sur la Terre vue des îles. Si leur seule évocation suffit déjà amplement à l'imaginaire du voyageur, les îles sont aussi de formidables laboratoires pour comprendre et décrypter les enjeux de notre planète. C'est ce qu'Arnaud nous expliquera dans quelques minutes. Et puis c'est l'occasion aussi de revenir sur le parcours de ce Normand passionné, amoureux de l'Islande, qui voyage entre 13 et 15 semaines par an aux quatre coins du monde, enfin surtout là où il y a des volcans, il nous racontera ça. Son dernier ouvrage d'ailleurs, sorti chez Ouest France, s'appelle Destination Volcan. Arnaud Guérin est notre invité cet après-midi jusqu'à 15h. Arnaud Guérin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous voir. Alors, vous êtes une fois de plus, si je puis dire, présent au festival Le Grand Bivouac à Albertville. C'est la 12e édition et vous faisiez le calcul tout à l'heure. Vous étiez quasiment présent dès le début. Vous n'avez pas raté quasiment de...
Je crois que j'en ai loupé deux. Ouais, mais depuis, je fais ma migration annuelle pour venir à Albertville.
La Normandie se déplace.
Exactement.
Et ça vous fait toujours beaucoup de plaisir. Alors, non seulement parce que vous présentez vous-même des choses, alors ça varie d'une année sur l'autre, et puis aussi parce que j'imagine vous vous régalez aussi à aller écouter d'autres voyageurs et aller voir les films des uns et des autres.
Exactement, comme tous les voyageurs, on a plaisir de se retrouver autour du bivouac. C'est vraiment une ambiance extrêmement conviviale. Chacun arrive avec ses images, avec ses récits, avec sa créativité, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui nous surprennent, c'est complètement incroyable. Et tout ça autour du thème du voyage. Donc c'est un grand moment, c'est une bulle d'oxygène dans ce début d'automne pour partir à l'autre bout de la planète, mais sachant que le bivouac est installé depuis maintenant 12 ans à Albertville.
Il existe d'autres types de festivals, un peu comme ça, sur le thème du voyage?
Alors, il y a pas mal de rendez-vous en France de passionnés de voyage. Il y a le plus grand festival, je crois que c'est Étonnant Voyageur en Bretagne, à Saint-Malo. Mais à chaque fois, c'est toujours, j'allais dire, c'est des rendez-vous qui peuvent être des rendez-vous littéraires, qui sont des rendez-vous sur les films, etc. Ce qui est extraordinaire au Grand Bivouac, je crois que l'idée de départ de Guy Chaumroy, c'était de réunir les gens qui avaient envie de parler. Et c'est centré sur l'échange.
Échanges, ouais.
Et donc ça donne une tonalité complètement incroyable. Les conférences sont quasiment toutes pleines à chaque fois. Tout le monde vient picorer en fonction de ses affinités. Ou alors, quand il n'y a pas de place, on découvre autre chose. Et à chaque fois, voilà, il n'y a pas de star system. C'est simplement basé sur la rencontre, sur l'échange. Et donc, ça, je crois que ça fait un vrai grand bien.
Et c'est ce qui fait l'originalité aussi du Grand Bivouac par rapport aux autres festivals de voyage.
Voilà, c'est un petit peu l'ambiance qu'on a quand on arrive en refuge le soir et on commence à discuter, puis on découvre qu'il y a d'autres gens qui connaissent le même endroit que vous, et puis d'un seul coup...
Le monde est petit, finalement.
Exactement.
Enfin, il est grand quand même, mais c'est vrai que c'est toujours le hasard des rencontres qui nous font penser que parfois, voilà, on crée des liens parce qu'on a été voir les mêmes choses aux mêmes endroits, et ça, c'est assez magique. On vous doit aussi quand même un peu les rencontres cuisine en voyage, sur le Grand Bivouac.
Voilà, parce que quand on discute de voyage, et la première chose qu'on échange, vous venez de m'accueillir, vous m'avez proposé un café. On est exactement dans la rencontre, dans l'échange, dans l'accueil. La première chose qu'on échange, c'est un sourire. Et puis bien souvent, il y a un petit truc après. Et donc, on a imaginé avec l'équipe du Grand Bivouac d'accueillir les voyageurs qui viennent présenter leur travail, qu'ils soient connus ou pas connus, pour discuter de cette chose qui réunit quand on arrive quelque part et qu'on ne connaît personne. On s'arrête, on dit bonjour et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose. C'est souvent quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et puis, il ne faut pas se leurrer, nous, Français, je dis souvent qu'on a deux hémisphères cérébraux. Pour nous, Français, il y en a un qui est descendu dans le ventre. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de voir comment on aborde aussi le voyage par la cuisine, par entre guillemets, la bouffe. Parce que souvent, c'est quand vous discutez avec quelqu'un qui rentre de voyage, c'est bien souvent la première chose qu'il vous raconte.
Eh ben oui, forcément, ça marque, hein, ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu, les rituels, les coutumes aussi qui sont liés à cette nourriture. Donc, cuisine en voyage, ça a lieu quand? On va tout de suite le donner un petit peu le ton de cuisine en voyage.
Alors, cette année, il y a une nouveauté qui s'appelle le dôme, ou la géode.
La géode, je crois.
Il va y avoir des rencontres qui sont des rencontres littéraires, des rencontres sur le thème de l'image, des rencontres sur le thème de la cuisine. Et donc, j'ai trois rendez-vous. Un avec Louis-Marie Blanchard, qui est un grand voyageur, une grande figure du Grand Bivouac, qui est un type extraordinaire. J'allais dire, c'est le voyageur tel qu'on peut l'imaginer dans les romans du 19e, qui arrive, qui rentre des hauts plateaux d'Asie centrale. Il a une expérience absolument incroyable. Une fois, il me propose de partir et il me dit, bon, on peut partir faire un petit voyage. Il faut qu'on parte 6, 7, 8 semaines, quoi. Donc ça donne une idée.
On n'a pas la même notion.
Voilà, on n'a pas exactement la même notion. Donc Louis-Marie, ça sera une carte blanche. On discutera de ses expériences et
toujours de ce qu'il a mangé à chaque fois. Hein, c'est l'idée.
Exactement.
Hein, toujours de ce qu'il a échangé, mangé.
Voilà. Et puis je vais accueillir des jeunes voyageurs qui ont fait un reportage sur l'idée de quel est le rêve, de quoi rêves-tu, et donc on va discuter de leur voyage. Et puis je vais accueillir Éric Brossier et sa famille, que j'accueillerai pour la soirée de l'exploration, samedi soir, et on fera un petit rendez-vous avant, puisqu'ils ont, c'est vraiment les Français qui vivent le plus au nord de la planète, puisqu'ils vivent dans le dernier village tout au nord d'une île qui s'appelle Ellesmere, qui est tout au nord du...
Après il n'y a plus rien.
Ouais, là il y a déjà plus grand chose dans la dernière colonie inuite dans ce dernier village, et donc ils vivent sur leur bateau. Et chose extraordinaire, ils vivent pas que, puisque c'est un couple, ils vivent pas que tous les deux, puisqu'ils ont deux enfants.
Ouais. Alors on en reparlera parce qu'en plus ils seront demain l'invité justement de cette année-là entre 14h et 15h en direct du Grand Bivouac, émission qui vous sera présentée par Norbert Lenôtre. Puis on en reparlera tout à l'heure puisqu'ils sont présents aussi donc dans cette grande soirée de samedi soir que vous présentez, Arnaud. On se retrouve dans quelques instants, Arnaud. On va tâcher de vous découvrir aussi. On vous a demandé, comme à tous nos invités, de choisir deux années qui étaient pour vous des années marquantes. Mmh. On va écouter aussi de la musique. On démarre avec Nouga York, Claude Nougaro. Et juste après, on continue cette discussion avec Arnaud Guérin qui va nous faire voyager.
Cette année-là, sur France Bleu Pays de Savoie.
Arnaud Guérin est avec nous cet après-midi. Il est géologue, volcanologue, photographe, auteur, guide de voyage, consultant en environnement. Ça fait beaucoup, Arnaud.
Oui, ça fait pas mal de passion. Ouais.
Ça fait pas mal de passion, mais il y a un point commun quand même à tout ça. C'est à la base quand même l'amour de la Terre, cette géologie, et puis après le fait de vouloir aller la voir, la partager par tous.
Oui, je crois que pour résumer, quand j'ai fini mes études, j'ai créé ma société qui s'appelle Lithosphère. La lithosphère, c'est la partie de la supérieure du manteau et de la croûte terrestre, si on est scientifique, mais c'est surtout, pour moi, tout ce qui tourne autour du caillou. C'est un bon résumé. Donc tous mes métiers, toutes les passions, c'est autour de ça.
Voilà, on commence à ramasser les cailloux très petits. Bah, vous n'avez jamais arrêté.
Exactement. Il y a des moments où on se pose la question ce qu'on va faire quand on fait ses études. Et il y a des moments, voilà, ce qu'on a fait et les premières passions souvent vous orientent vers ce que vous allez faire de votre vie.
Alors cette année, au Grand Bivouac, vous allez nous parler des îles avec une conférence qui s'appelle La Terre vue des îles. Pourquoi avoir choisi les îles, Arnaud ?
Ben parce que pour moi, en tant que voyageur et en tant que Normand, moi, je ne suis pas un montagnard d'origine. Moi, je suis né au bord de la mer, donc j'ai un besoin irrépressible d'horizon et de partir en bateau. Ce qui est extraordinaire pour moi dans le voyage sur les îles, c'est cette rencontre sur un quai. On pose le sac et on va prendre quelqu'un qui va vous emmener. C'est un passeur, c'est quelqu'un qui est là. Pour moi, c'est que vous alliez sur une petite île de notre littoral, et le mot petit n'est pas du tout péjoratif,
oui.
C'est à chaque fois vraiment le voyage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'imprévu, ça ne se passe jamais comme vous l'avez imaginé. Et puis surtout, pour les gens, il y a des contraintes. La première contrainte, c'est le mal de mer pour ceux qui l'ont. Et donc, à chaque fois, les îles, ça se mérite. Et l'insularité, ensuite, est quelque chose qui est extraordinaire parce que ça concentre tout ce qu'on peut voir. Ça concentre les cultures. La vie est plus intense qu'ailleurs. On y reviendra sur certaines des destinations. Ça concentre les beautés parce que, par exemple, quand on parle d'endémisme ou de biodiversité, on a des repères. On parlera peut-être des Galapagos.
Oui, aussi,
c'est absolument incroyable parce qu'on a tout là et pas ailleurs dans le monde. Donc ça veut dire que c'est des petits isolats géographiques qui font que voilà, on est dans des environnements où on n'est pas seul au monde, mais on est quelque part loin.
Ouais.
Et c'est vrai que pour moi, en tant que géologue, on vit sur une petite planète. Donc les endroits où on est au bout du monde, les îles, favorise justement cette notion de bout du monde.
Alors vous allez nous faire visiter combien d'îles lors de la conférence au Grand Bivouac ?
Alors ce qui est bien au Grand Bivouac, c'est comme dans les voyages que j'aime guider, c'est-à-dire qu'il y a le programme et puis il y a ce qu'on va faire avec les gens. Donc
on se laisse porter aussi.
En fonction, on va partir en Nouvelle-Zélande, au sud de la Nouvelle-Zélande, parce que pour les gens, la Nouvelle-Zélande, alors déjà c'est très lointain parce que
déjà,
c'est 26
oui.
heures de vol. Et donc la Nouvelle-Zélande, c'est deux grandes îles. Et puis en dessous, il y a une toute petite île qui s'appelle Stewart Island, qui est là où le navigateur Yves Parlier avait rematé son bateau dans le tour du monde en solitaire il y a une dizaine d'années, qui est une toute petite île où il y a juste un village. Ça fait 70 km de long, 35 km de large. Il y a un village avec 400 personnes qui s'appelle Oban, comme la ville d'Écosse, du nord de l'Écosse, célèbre pour son excellent whisky. Et là, il y a juste 400 personnes et plus rien. C'est le dernier village.
Ensuite, avant l'Antarctique. Donc ils sont vraiment pour le coup
C'est un bout du monde assez extraordinire. Et puis là, pour les trekkers, c'est une des îles les plus réputées au monde pour le trek, parce que si vous partez là, vous en avez au moins pour 3 semaines en autonomie avec de la boue partout et enfin tout ce qui fait rêver les gens qui aiment porter lourd et aiment partir isolés. Et puis surtout, c'est une terre absolument incroyable pour la biodiversité et en particulier pour les albatros. Alors moi, en tant que géologue, j'ai découvert les oiseaux en Islande. Mais là, en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert les plus grands oiseaux de mer de la planète. Il faut dire qu'un albatros royal, c'est 3,60 m d'envergure. Donc, c'est
énorme,
un petit avion.
Hein. Ouais.
Hein, c'est un ULM pour donner l'échelle. Et alors, ces oiseaux, c'est simplement, émotionnellement, c'est à pleurer. Hein. Vous êtes sur un bateau, ils vous suivent. Et là, en tant que photographe, c'est simplement incroyable. Vous pouvez quasiment les toucher. Je montrerai des images. J'ai des portraits en vol.
Ils passent très près.
Ils passent extrêmement près. Ils sont extrêmement curieux. C'est des oiseaux qui font des navigations ou plutôt des vols circum-antarctiques. Et la Nouvelle-Zélande concentre le plus d'espèces au monde sur les îles péri-antarctiques qui est au sud de l'île Stewart et à proximité de l'île Stewart. Donc c'est un endroit absolument incroyable. C'est un endroit aussi incroyable parce que c'est un des seuls endroits en Nouvelle-Zélande où on peut voir les kiwis en liberté.
Alors les kiwis, rappelez-nous.
Donc les kiwis.
C'est pas le petit fruit qu'on mange.
Voilà, c'est simplement que la Nouvelle-Zélande est une terre où les oiseaux ont évolué sans prédateurs. Il n'y avait pas de mammifères. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui ont perdu l'usage de leurs ailes et qui sont devenues des oiseaux marcheurs c'est le cas du kiwi. Donc il y avait des cousins des kiwis qui pouvaient être très grands, puisqu'il y avait le moa qui existait encore au début du 19e siècle et qui faisait 3,20 m de hauteur. Hein, donc c'était absolument énorme. Là, j'allais dire, la nature s'est complètement lâchée sur les oiseaux qui étaient le règne animal le plus dominant sur ces îles. Donc le kiwi a beaucoup de problèmes en termes d'environnement à l'heure actuelle, puisque avec l'arrivée des Européens, les espèces invasives sont arrivées, les rats, les moutons, etc. Et donc ces oiseaux marcheurs ont payé un prix absolument incroyable à cette invasion. Et il reste quelques repères comme Stewart, où il est encore possible de voir des kiwis en liberté.
Ils sont gros, eux, les kiwis ?
Alors les kiwis, ça ressemble à une à la plus petite de nos espèces de poules en termes de taille. Hein. Mm-hmm. C'est des oiseaux avec des plumes d'une finesse absolument incroyable qui faisait rêver tous les rois des tribus maoris, puisqu'on utilisait ces oiseaux, à peu près 30 000 oiseaux, pour faire simplement un pagne de roi. Ce sont des oiseaux qui sont absolument incroyables, qui sont nocturnes.
Vous avez réussi à en voir en photographie.
Donc il faut y aller avec la personne qui a l'autorisation. C'est extrêmement contraint. Hein. En Nouvelle-Zélande, on a un organisme d'État qui s'appelle le DOC, le Department of Conservation, qui a donné dans ce seul endroit un permis pour emmener quelques personnes le soir à un endroit précis. Donc on est bien on est dans un bout du monde et dans une rencontre qui est une rencontre, si elle a lieu, parce qu'on est encore une fois dans une rencontre avec la nature. Si elle a lieu, voilà, c'est des moments où on se pince pour se dire qu'on y est.
Ça a été votre cas, vous les avez vus,
ouais,
vous
tout
les avez
à
photographiés.
Fait. Non, tout ouais. à fait. Ouais. Et donc là, j'allais dire, plus que la photographie, c'est simplement vivre à l'instant.
Ouais, juste,
hein.
Ouais.
Les albatros, c'est vraiment autre chose, parce que là, ils sont extrêmement proches.
On les cherche
proches.
Pas, ouais. Ils sont là.
Ils viennent et là, on les a autour du bateau. C'est un spectacle qui est absolument incroyable. Alors, photographiquement parlant, c'est...
Comment vous faites, Arnaud, pour choisir les lieux où vous allez aller par exemple, là, il faut la connaître, cette petite île. Comment vous décidez d'aller à Oban plutôt qu'à un autre endroit, parce que la Terre est grande? Comment vous y prenez pour faire vos choix?
Ce qui est super, c'est qu'il y a plein de gens qui ont voyagé avant nous. Donc, quand on regarde les guides de voyage, il y a toujours des endroits. Je crois que c'est l'amour des cartes. S'il y a un truc qui est fantastique, et là, il y a des enfants dans le studio.
Il y a des jeunes qui sont venus assister à l'émission.
C'est simplement, il y a un truc qui est encore mieux que les bouquins à lire, ce sont les cartes. Et quand vous voyez un endroit où, qui est paumé au bout du monde et que vous voyez que c'est possible d'y aller, il y a une liaison maritime, il y a un petit village.
Ça donne envie.
Pour moi, c'est quelque chose qui titille ma curiosité.
Il y a un petit warning qui s'allume.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des rêves comme ça. J'ai un certain nombre de lieux comme ça où j'ai envie d'aller découvrir. Il y a un bouquin qui était sorti chez Artaud l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui s'appelait le dictionnaire des îles abandonnées ou des îles du bout du monde. Bon, voilà.
Vous avez tout coché, vous.
Là-dedans, il y a pas mal d'endroits où on rêve d'aller, tout simplement parce que, en termes de nature, c'est toujours des endroits où, quand l'homme est très peu présent ou pas du tout présent, bien voilà, c'est complètement décuplé en termes d'intérêt.
Alors on va quitter quelques instants la Nouvelle-Zélande, on y serait bien resté, mais on va essayer de voyager pas mal avec vous cet après-midi, Arnaud. On va évoquer dans quelques instants la première année que vous avez choisie pour parler de votre parcours. C'est l'année 2002 qui va nous faire voyager aussi du côté de l'Islande. On l'évoque dans quelques instants, juste après Les Rois du Monde, extrait de la comédie musicale Roméo et Juliette. Arnaud Guérin est avec nous cet après-midi, il est guide de voyage, il est géologue, volcanologue, photographe, auteur. Combien de livres déjà
Je termine le 24e.
Quand même, pas mal. Alors le dernier, c'est Destination Volcan, puis il y en a un autre aussi sur le Mont-Saint-Michel.
Oui, qui s'appelle Mont au singulier et Merveille au pluriel, parce que si vous venez chez nous, dans cette baie exceptionnelle qui est la baie du Mont-Saint-Michel, avec les plus grandes marées d'Europe, avec cette vague qui s'appelle le Mascaré, qui déferle en période de grande marée, qu'on peut surfer, eh bien vous verrez qu'il y a un mont qui est connu du monde entier, avec 3,5 millions de visiteurs par an, et puis il y a tellement de merveilles autour que j'ai décidé d'en faire un livre pour faire découvrir cette diversité de cette baie et d'un archipel qui est au large, qui s'appelle l'archipel de Chausey.
Bon, alors, il est normand ou il est breton, ce Mont-Saint-Michel ?
Il n'y a aucune question là-dessus. C'est une commune du département de la Manche. Et historiquement, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toute cette diversité entre nos deux cultures qui sont très différentes. Mais surtout, cette diversité en termes de paysage, en termes d'utilisation d'un milieu naturel. Et puis, il faut simplement aller... alors, pas trop se perdre parce qu'il y a la marée. Il faut vraiment se méfier. Il faut partir avec les bons guides. Mais je vous invite à aller partir un matin avec mon copain Yann, qui est guide de kayak. Vous partez à 6 heures du matin, il fait nuit, et puis vous descendez les rivières en pleine baie. Vous allez vous poser sur le petit îlot de Tomblaine, qui est entre le mont et la côte normande. Et puis vous attendez la marée, et là vous repartez avec le flot. Vous avez les phoques qui viennent vous voir, c'est des petits moments d'exception. Il faut pas aller à l'autre bout de la planète, c'est juste devant votre porte.
C'est ce que j'allais dire, on parlait de la Nouvelle-Zélande à l'instant, mais ce qu'il y a de bien en vous écoutant, c'est qu'on voit qu'on a des coins magnifiques et des richesses partout, il n'y a pas besoin d'aller...
C'est aussi un des enseignements du Grand Bivouac, c'est-à-dire que le voyage, ça commence devant la porte, c'est juste une envie de partir.
Une curiosité de regarder aussi ce
exactement,
qu'on a autour
exactement, c'est-à-dire c'est le remède à la passivité, et ça veut dire que voilà, il faut prendre son sac et puis partir. Si on n'a pas les moyens, on peut juste partir là. Si on a envie de partir un peu plus loin, on peut. C'est juste une invitation.
C'est un état d'esprit, hein,
exactement. Ouais.
Alors on va évoquer cette première année que vous avez choisie, Arnaud. C'est l'année 2002. C'est l'année où vous mettez les pieds pour la toute première fois en Islande.
Oui.
Et c'est une vraie révélation, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous y êtes retourné 49 fois depuis et la 50e fois qui arrive bientôt. Qu'est-ce qui s'est passé en Islande en 2002, Arnaud ?
En fait, je suis missionné par un tour opérateur avec lequel je travaille sur des voyages sur les volcans. Et il me dit, est-ce que ça t'intéresse de partir en Islande ? Donc souvent, on a des propositions comme ça, qui sont un peu indécentes, parce qu'il faut regarder avec le calendrier. Et donc j'arrive là-bas. Je rencontre un Français qui est installé là-bas depuis 35 ans, qui s'appelle Philippe Pathé, qui tient une agence, l'agence de voyage locale, ce qu'on appelle un réceptif dans notre jargon. Il me dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, on va se boire une bière et manger un sandwich, et puis je t'ai pris 2 billets, tu pars pour les îles Vestmann dans le sud-ouest de l'Islande, tu vas y rester une semaine et puis après tu feras ton premier voyage avec des clients. Il me dit, tu devrais voir ça, encore une fois sur une carte. La discussion se fait autour d'une carte, il me dit, il faut absolument que tu ailles voir ça. Ça, je comprends pas, tiens, en tant que géologue, tu devrais m'expliquer ça, puis je te raconte un petit peu ce qui se passe. Et puis il me donne des tickets pour prendre le bus, je prends le bateau, 2h30 de bateau, j'arrive sur ces îles où il y a un volcan qui est apparu en plein milieu du village en 1973, où 10 ans avant, il y a une des plus jeunes îles de la planète qui est sortie du fond de l'océan Atlantique, où il y a 2,5 millions ou 3,5 millions de macareux moines qui viennent se reproduire, et où il y a la plus grande communauté de pêcheurs d'Islande. C'est-à-dire que, encore une fois, sur cette petite île qui s'appelle l'île des Mae, qui veut dire l'île habitée, juste en face du volcan qui a fait tant parler, qui s'appelle Eyjafjallajökull.
Voilà, que je ne répéterai pas, mais
voilà,
on s'en
souvient. Voilà, qui veut dire simplement la montagne du glacier des îles, puisque les îles sont situées juste en face. Eh bien, on a encore une fois sur cette petite île toute l'Islande qui est cristallisée autour d'une petite communauté de pêcheurs, dont les plus riches avaient quand même des jets privés pour avant la crise financière pour aller voir leur club de foot en Angleterre. Donc
ils vivaient bien.
Donc c'est encore une fois ça concentre tout. J'allais dire au bout d'une semaine quand j'ai repris le bateau pour rentrer, mes vêtements sentaient l'usine à poissons parce que ça pue vraiment. Vraiment.
Partout sur toute l'île.
Ils font de la farine de poisson avec ce qu'ils n'utilisent pas dans les poissons. Et vu les tonnages ramenés par les bateaux, c'est très important.
Ouais.
Donc j'étais déjà devenu presque un peu islandais.
avec l'odeur.
Presque. En tout cas, avec cette expérience de voyage. Et puis je suis parti pour mon premier voyage avec un chauffeur islandais. Et encore une fois, à chaque fois, le voyage, c'est ça. Il y a des gens qui vous donnent les clés. Là, j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont donné les clés et qui m'ont fait découvrir. Je viens de faire un bouquin en Normandie chez moi qui s'appelle « La Normandie dans l'œil d'un viking », qui est la signification des noms de lieux chez moi en Normandie, parce que les Islandais parlent la langue que parlaient les Scandinaves quand ils sont arrivés chez moi en Normandie. Et donc, 60% des noms de lieux, et ça, je l'ai découvert en Islande, chez moi en Normandie, sont d'origine scandinave. Et 70% du vocabulaire qu'on utilise sur un bateau pour décrire le littoral. Donc encore une fois, il y a des moments où on trouve des choses en voyage qu'on ne soupçonne absolument pas au départ. Et quand ça se passe comme ça, bien sûr, il y avait le lien qui était un lien extrêmement fort, qui était les volcans. C'est pour ça que j'y suis allé pour la première fois. Mais encore une fois, j'ai poussé la porte et puis là, c'est un véritable univers qui s'est ouvert. Et j'ai découvert cette île qui est absolument incroyable. On ne peut pas décrire l'Islande en deux mots. Ce n'est pas une île, ce n'est pas un pays, c'est un véritable univers.
Alors oui, moi je voudrais quand même des mots, puisque je ne peux pas avoir des photos, je fais de la radio. Qu'est-ce qui vous fascine tant? Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne 50 fois? Vous allez y retourner pour la 50e fois, et vous êtes encore surpris par ce que vous voyez? Vous découvrez encore des trucs?
Il y a un élément qui est un élément formidable, c'est tout ce qui lie l'univers boréal, donc l'univers du Nord, c'est la lumière.
Elle est toujours différente.
Elle est absolument complètement différente. Elle change en permanence et elle est d'une violence sublime ou ignoble quand vous êtes sous le mauvais temps. Donc la météo est extrêmement forte. Deuxièmement, c'est une île qui fait un cinquième de la France avec 300 000 habitants. Donc 230 000 qui sont à Reykjavik, donc ça vous laisse peu de monde sur le reste. Il y a une petite capitale au nord qui s'appelle Akureyri avec 30 000 habitants. Et pour le reste, il n'y a personne ou quasiment personne. Donc vous avez un sentiment d'isolement qui est extrêmement fort. Vous avez des glaciers, pour des montagnards, ça parle ici. Hein. Le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande, il est grand comme la Corse, il fait 8300 km². Donc ça veut dire que tout est d'un gigantesque.
Tout est démesuré, en fait.
Voilà. Et puis là-dedans, c'est une île qui est née il y a 20 millions d'années pour les parties émergées. Ce ne sont que des volcans. Donc ça veut dire qu'on a une terre brute, il n'y a pas d'arbres. Donc la végétation, il n'y a pas de verticalité.
Des volcans tous en activité? Une grande partie?
Alors, des volcans tous en activité, on est dans un système qui est un système de création de l'océan Atlantique. Donc, c'est là que ça s'ouvre à l'heure actuelle sous nos pieds, hein, 2 à 3 cm par an. Simplement, on ne le sent pas parce qu'on ne vit pas à la même échelle que nous, géologues. Même moi qui suis géologue, je ne sais pas ce que c'est qu'un million d'années. J'en parle tous les jours. Mais ça veut dire qu'à cette échelle-là, ça s'ouvre extrêmement rapidement. Et donc, les volcans, il y a quelques volcans qui sont extrêmement bien connus. On entendra peut-être parler dans l'actualité. Ça peut arriver demain matin comme dans 10 ans. Il y aura à nouveau des éruptions extrêmement fortes.
L'éclat,
le Katla, l'Eyjafjallajökull qu'on n'attendait pas est rentré en éruption. Il y a d'autres volcans comme l'Aska, le Grímsvötn, etc. Mais ça veut dire que ça modèle un paysage qui est un paysage des origines. Et quand on parle de ça, c'est vraiment... pour en prendre la dimension, il faut juste prendre son sac à dos et partir en trek. Là, il n'y a pas de chemin. Donc, pour des montagnards, là aussi, vous comprenez la problématique. C'est extrêmement montagnard. Ça peut être extrêmement montagnard en termes d'ambiance. Et puis, à un moment, vous allez descendre dans une vallée et vous allez rencontrer une rivière glaciaire. Il va falloir traverser pour aller de l'autre côté. Et donc, c'est des ambiances qui sont des ambiances extrêmement rudes.
Et qui marquent véritablement.
Et qui marquent véritablement. Ouais. Et puis après, il y a toute la culture derrière. Il y a cette culture scandinave. Il y a ce monde caché, ces trolls, ces elfes, ces
fantômes.
Il y a
quelque chose de magique.
Il y a tout ça. Exactement. On est dans un pays où les gens ont saisi la nature des lieux. C'est-à-dire que quand le tellurique et le climatique vous mettent à l'épreuve pendant 1000 ans, vous pouvez avoir développé qu'une culture qui est une culture d'entraide extrêmement forte et une culture avec plein de croyances locales, même s'ils ont choisi de devenir chrétiens au printemps de l'an 1000 en votant à main levée, ils ont gardé ces croyances sur cette nature qui, en une éruption, chasse les gens ou fait disparaître 25% de la population islandaise, comme ça a été le cas en 1783 avec l'éruption du Laki. Et peut-être que cette éruption, ses conséquences, ça a été à l'origine de la Révolution française. Donc ça veut dire que ça va très loin.
Il y a des liens, on fait des connexions en fait, hein, on se rend compte en voyageant.
Exactement.
On crée des liens qu'on ignorait complètement, on découvre des choses en permanence.
Exactement. Et puis l'intérêt de l'Islande, c'est que c'est 2h30 de Paris en avion. Donc ça veut dire que c'est extrêmement proche et pourtant vous vous retrouvez extrêmement loin.
Complètement isolé, c'est ce qu'on disait. Alors l'Islande, on va devoir la quitter aussi, même si on y serait bien resté avec vous. On va continuer à voyager, on va parler des volcans dans quelques instants. Avec vous Arnaud Guérin, vous êtes avec nous jusqu'à 15h. 14h39, Arnaud Guérin est avec nous cet après-midi. Il est guide de voyage, géologue, volcanologue, photographe, auteur. Et on va justement vous poser quelques petites questions sur votre passion, Arnaud. On va essayer de découvrir un petit peu comment tout ça est né et puis parler des volcans, parce que c'est assez fascinant pour nous. Première question, d'où vous vient cette passion pour la géologie ?
En fait, je suis né en Normandie, dans le Pays d'Auge, à côté d'un gisement de fossiles qui est un des plus importants en France. C'est même là qu'on a certainement découvert un des premiers os qui a servi à définir ce que c'est qu'un dinosaure. J'aime bien résumer en disant que Jurassic Park est né là, sur cette portion du littoral normand. Donc j'ai cherché des bouts de cailloux quand j'étais petit et à un moment, dans mes études, après m'être un peu égaré dans d'autres destinations, je me suis dit que géologue, ça pourrait être un métier extrêmement intéressant. Et d'un seul coup, ça va beaucoup mieux pour les études.
Et avec une spécialité volcanologie, ça aussi.
Ouais, parce que alors souvent quand on est enfant, il y a deux trucs qui vous intéressent, c'est les dinosaures et les volcans. Et puis j'ai eu la chance de voyager avec mes parents sur les volcans, juste pour aller voir en tant que touriste, hein, sans du tout. Et puis en France, on a eu la chance d'avoir des grands anciens, ils s'appelaient Taziev et les Kraft.
Ouais.
Et quand vous voyez ça, vous dites que la vie de la Terre, elle est palpable dans quelques endroits de la planète qui s'appellent les volcans. Il faut aller voir ça. Une fois que vous avez vu ça pour la première fois, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y retourner.
Mais justement, est-ce que vous avez donc vu déjà des volcans en éruption, Arnaud ?
Oui, j'ai vu plein de volcans en éruption.
Ça fait quoi de voir un volcan en éruption ? Déjà, on est à quelle distance du volcan en éruption ?
Franchement, ça change votre vie. Il y a avant et après.
C'est vrai ?
Oui, parce que c'est un des seuls endroits sur Terre où vous voyez la Terre vivre. Quand on parle de Terre, planète vivante, il y a des jeunes qui sont avec nous là dans le studio.
Classe de 3e de Rumilly, voilà.
Voilà. Et donc, on leur apprend plein de choses sur des trucs très compliqués, avec un vocabulaire très compliqué. Et là, d'un seul coup, ça devient concret. C'est-à-dire que la Terre, elle est en train de respirer. Vous entendez ces gaz qui sortent, qui rentrent, et puis d'un seul coup, ça explose. Et là, vous comprenez tout de suite ce que c'est que la tectonique des plaques, ce que c'est que plein de notions que vous avez appris avant. Et puis quand vous avez le regard du géologue, c'est l'expression concrète de tout ce que vous avez appris. Et puis simplement, en tant qu'être humain, c'est juste un des plus beaux spectacles de la planète, avec une notion qui est une notion qui est vraiment à prendre en considération, qui est que le niveau d'énergie est bien, bien, bien supérieur à tout ce que vous connaissez dans les phénomènes naturels, que ce soit les tempêtes en mer, les avalanches en montagne, des choses comme ça. D'un seul coup, là, vous êtes vraiment, vraiment à votre échelle, c'est-à-dire une minuscule petite poussière sur un gros tas de cailloux qui n'est pas une montagne, hein, il faut le rappeler aux auditeurs. Ce n'est pas formé comme tous les reliefs qui vous entourent par plissement, c'est simplement par projection. C'est un tas de cailloux qui grossit, dans lequel du magma remonte et va rentrer en contact avec l'atmosphère et va créer ce qu'on appelle de la lave. Alors en général, en plus, vous êtes dans un milieu qui est un milieu montagnard, c'est-à-dire que ce sont des reliefs. Donc il y a l'attrait de la montagne, plus l'attrait de l'activité, et avec, avec ce spectacle qui est simplement
alors,
hallucinant.
À quelle distance on peut être pour voir ce genre d'événement?
Alors ça dépend où vous êtes. Hein. Ouais. À chaque fois, il faut toujours y aller avec des gens qui connaissent les lieux. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Des gens qui connaissent ce que c'est que la volcanologie et ce que c'est que les volcans. Donc il y a des contraintes de sécurité qui sont extrêmement importantes à prendre en considération.
On est habillé d'une certaine manière, on est chaussé d'une certaine manière aussi. Hein.
On est habillé comme tout bon montagnard ici, avec tout ce qui va bien en termes de sécurité, etc. Un casque, éventuellement un masque à gaz si on est dans des zones où il y a des gaz. On peut être assez proche, si on parle, et on parlera peut-être tout à l'heure du Stromboli. À vol d'oiseau, on est à 200-250 mètres des bouches. Si on est sur des volcans qui sont des volcans explosifs, on est bien sûr bien plus loin que ça. Sachant qu'il y a des phénomènes qu'on peut approcher de très près. Hein. Si vous voulez aller voir des coulées de lave, sur certains, je me rappelle, il y a 2 ans et demi au Pacaya, là, au Guatemala, on était, j'ai fait des photos, j'étais... on est séparés à peu près d'un mètre cinquante ou 2 mètres. J'étais à cette distance-là de la coulée de lave. Ouais. Simplement, j'avais le vent dans le dos. Ça, c'est extrêmement important.
Ah oui, pour pas. Oui, d'accord. Oui, être dans le bon sens. Ouais.
Il faut être dans le bon sens parce qu'il y a un front de chaleur qui est exactement comme quand vous ouvrez la porte de votre four. Vous pouvez rentrer la main jusqu'à une certaine distance. Et puis après, vous ne pouvez plus parce que c'est trop chaud.
Justement, quand on est prêt comme ça, qu'on voit un volcan en éruption, on a déjà une sensation de chaud, clairement.
Ah oui, si,
mais chaud, chaud.
Oui, là au Pacaya, la lave elle sortait à 1150 degrés.
Voilà.
Donc très, très clairement, les gens qui travaillent dans une fonderie savent de quoi je parle. Pour les autres, ils comprennent pas bien.
Donc même quand on
bien,
est dans le bon sens du vent, on ressent une chaleur, on ressent déjà quelque chose de très fort.
Ouais. Exactement. Donc il faut toujours faire extrêmement attention. Après, encore une fois, c'est un spectacle d'une beauté qui est absolument sublime. Et puis, ce qui est fantastique, c'est ce que je raconte dans le bouquin Destination Volcan, c'est que c'est graduel, le volcan. C'est-à-dire qu'on va découvrir, on va rencontrer quelqu'un qui est votre guide, en général le guide local. On travaille toujours avec des guides locaux qui va vous faire partager. On va se rencontrer autour d'une bonne table, on va cuisiner avec on va discuter et on va manger les produits locaux. Et puis ensuite, on va découvrir la culture locale et puis on va aller graduellement. Comme quand on monte sur un sommet, ça se fait pas du jour au lendemain. Autrement, c'est extrêmement dangereux. Il faut quand même cerner, il faut bien comprendre l'environnement dans lequel on est.
Est-ce que vous êtes déjà fait peur ?
Oui, je me suis. Oui. J'ai un souvenir extrêmement désagréable qui était en l'an 2000 à l'Etna. Une erreur, j'allais dire, de jeunesse sur une éruption. L'Etna fait par moment des éruptions extrêmement violentes qu'on appelle des paroxysmes. Ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça fait des fontaines de lave à 1200, 1300 mètres au-dessus du volcan. Puis ça s'arrête. Et on était parti pour un voyage qu'on appelait spécial éruption. J'étais là pour faire des images. J'ai débuté ma carrière de photographe et de guide. Et j'étais avec un guide chevronné qui était là et qui me dit, bon, ça faisait 2 jours qu'on attendait, il faisait moins 25 là-haut. C'était pas très drôle, quoi. Et puis, on voyait du rouge au pied du cône et on voyait ces gaz sortir. J'ai dit, bon, on va aller voir. Et puis, en quelques secondes, on a vu de la vapeur d'eau s'échapper du cône. C'est simplement que le magma est en train de monter en dessous. Il rencontrait la vapeur d'eau. Et là, la vapeur d'eau, l'eau passe directement de l'état liquide à l'état vapeur. Ça crée une surpression. Et donc, c'est ce qui va alimenter. C'est le détonateur du bâton de dynamite. Et là, en quelques secondes, la fontaine de lave s'est mise à... Et on a des blocs qui sont tombés partout autour de nous. Et donc là, on s'est mis vraiment à courir.
Très vite.
Ce qui, en général, il ne faut pas faire. Mais là, l'adrénaline, ça vous sauve la vie de temps en temps. Et la peur rétrospective après est quelque chose d'extrêmement violent quand vous retournez sur les lieux et que vous savez ce qui vous est arrivé là.
Combien de volcans sont en activité à l'heure actuelle sur toute notre planète? On sait, on a des
chiffres. Il y a une liste d'un organisme des Nations Unies qui dit 15 511.
C'est précis.
Ouais. Alors, il faut faire.
Vous
toujours,
êtes sceptique.
Il faut faire toujours attention parce que à chaque fois tous les ans, en ce moment il y a une vingtaine d'éruptions. Il y a un site américain qui vous donne. Bon là ils sont en grève à cause du problème américain, mais
normalement,
vous avez ça tous les jours. Moi j'ai ça tous les jours sur mon ordinateur. Ils vous donnent les éruptions qui
en. Il y en a tous les jours.
Il y en a tous les jours sur la planète. Donc il y en a une quinzaine à peu près. Une cinquantaine de volcans qui font des grosses crises éruptives par an. Les 1500, les 1511. La liste est extrêmement variable puisqu'il y a des volcans qui n'ont pas fait parler d'eux depuis. extrêmement longtemps, ouais. Et qui rentre en éruption. Le Pinatubo en 1991, c'était le cas. Il y a un volcan dans le nord de la Patagonie là, qui rentre en éruption il y a 2 ans. Il n'était même pas noté sur les listes.
Oui, donc c'est, ouais. C'est pas fiable à 100%.
Alors, ouais, si vous voulez voir et si vous voulez savoir, il faut mieux, si vous êtes dans une région et qu'il y a des appellations locales et que les populations autochtones vous disent que c'est une montagne qui fume ou des choses comme ça, même si c'est pas dit que c'est un volcan, en général, c'est que c'en est un.
Et quand on dit qu'ils sont en sommeil, ça veut dire qu'ils sont définitivement endormis ou qu'ils pourraient se réveiller encore Est-ce que ça pourrait arriver ? C'est en France, où les volcans d'Auvergne, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour...
Alors, les volcans d'Auvergne, c'est assez intéressant. On nous pose la question à chaque fois.
Bah oui,
donc, j'ai la réponse.
Ah bah, elle est toute faite. Allez, on y va. La réponse.
l'histoire des volcans d'Auvergne, il y a eu déjà des périodes où ça s'est arrêté pendant plus de 10 000 ans. Ça veut dire que les dernières éruptions, on n'est pas sûr, 7005 ou 4500 ans. Donc ça veut dire que ça pourrait très bien...
On pourrait avoir une éruption en Auvergne.
Bon, on pourrait avoir une petite éruption touristique en Auvergne, ça serait sympa, ça serait super bien pour le marketing de Vulcania.
Ah ben, l'Auvergne serait ravi.
Il serait complètement ravi. Mais c'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est un environnement de volcans potentiellement actifs. Mais si on veut aller voir des volcans actifs, il faut aller dans le sud de l'Italie ou en Islande.
Et si vous voulez en savoir plus sur les volcans, le dernier ouvrage paru chez Ouest France d'Arnaud Guérin, Destination Volcan, est sorti. D'ailleurs, on vous l'offre très prochainement sur l'antenne de France Bleu Pays de Savoie. Il fera une opération cadeau et on reparlera des volcans et de votre livre, Arnaud. On se retrouve juste après Louis Bertignac et on évoque l'année 2013. C'est la deuxième année que vous avez choisie.
Ici, on remonte le temps. France Bleu Pays de Savoie, vu d'ici.
Arnaud Guérin est avec nous cet après-midi, géologue, photographe, volcanologue, qui sera présent également, je vous le rappelle, au Grand Bivouac d'Albertville ce dimanche à 10h avec votre conférence, Arnaud, sur les îles, la Terre, vue des îles. On va parler d'une autre île, d'ailleurs, avec la deuxième année que vous avez choisie, l'année 2013. Mm-hmm. Cette année-là, année importante pour vous, vous avez emmené votre fille, Zoé, qui est là, d'ailleurs, dans le studio, on lui fait un petit coucou, qui a 7 ans, c'est ça, hein, Zoé ?
8 ans,
elle avait 7 ans quand vous l'avez emmenée, ouais. Pour la première fois, donc, sur un volcan, c'était le Stromboli dans le nord de la Sicile. Un petit mot sur ce choix, le choix de cette date et de cet événement, du coup, pour vous tous.
C'est juste un petit clin d'œil parce que quand on est voyageur et qu'on voyage beaucoup, on est souvent absent. Et dans notre métier, il y a des moments qui sont des moments très sympas. C'est quand on a des gens qu'on connaît, qu'on emmène, c'est-à-dire des clients et qu'on connaît bien et on ouvre la porte à la famille. Donc, c'est-à-dire, ma femme et ma fille sont venues avec moi sur ce voyage sur l'Etna et les îles Éoliennes. Et c'était une expérience vraiment formidable parce que, bien sûr, transmettre... Moi, je vis de ma passion, j'ai cette chance-là. Mais faire partager les moments vécus, bien souvent, c'est au retour, on en parle, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Alors que là, quand on parle de la sensation d'y être, et puis à 7 ans, de se faire les 1000 mètres de dénivelé pour monter au sommet du Stromboli avec cette ambiance-là, parce que c'est un volcan actif, on l'entend gronder, on voit les panaches de cendres. En plus, il était en belle période d'activité. Il y avait un beau vent, comme on dit chez nous, à décorner les bœufs pour monter.
Ouais.
Donc, c'est une belle aventure de groupe où, dans ce groupe, il y avait ma femme et ma fille.
Ça fait du bien de partager en famille sa passion aussi.
Bah, ça, c'est absolument fantastique parce que quand on arrive sur la lèvre du cratère avec mon copain Franco, Amy, qui est le guide avec qui je travaille sur l'Etna et sur les éoliennes, qui bossait avec Taziev, donc il y a encore une fois une transmission qui est vraiment exceptionnelle. Bien sûr, quand j'y suis normalement avec des groupes classiquement, c'est pas exactement pareil. Mais là, comme par hasard, on est resté bien plus longtemps que prévu. On a eu du temps pour regarder et puis voilà, c'était à vivre. Donc c'est quelque chose de fantastique quand on descend de nuit avec les frontales dans la cendre pour redescendre le volcan. Voilà, on a vécu ça ensemble. Ça fait partie des petits cailloux. Zoé était déjà venu sur les volcans un an et demi avant en Nouvelle-Zélande, mais sur des volcans qui n'étaient pas en activité. Là, elle a pu voir ce que c'était.
Exactement. Et là, tout ce qu'explique papa prend vie, là, pour le coup, quand on y est.
Ouais, j'allais dire, c'était même pas au-delà des, enfin c'était au-delà des explications, c'était justement simplement pour vivre ça, et puis ressentir, je crois que c'est dans le partage avec ses proches, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel quand on partage des moments de vie, en particulier sur des lieux qu'on adore, et moi c'est vrai que Stromboli Tripoli, cette petite île, ce petit caillou qui est le phare de la Méditerranée pour les anciens, pour les Grecs qui passaient déjà là dans l'Antiquité. Voilà, ça fait partie de ces bouts du monde qui sont tout à fait exceptionnels. Et quand on peut faire partager ça en plus à ses enfants, c'est quelque chose de tout à fait magique.
Bon, à la fin de l'émission, on aura tous envie d'aller voir des volcans. Hein, ça, c'est sûr, vous nous aurez convaincus. Je rappelle donc que ce week-end, vous serez au Grand Bivouac, Arnaud. On peut découvrir votre dernier bouquin, Destination Volcan. À 10h ce dimanche, vous donnerez la conférence sur la Terre vue des îles. Alors, on n'a pas le temps, évidemment, de passer tout en revue. Néanmoins, quand même, petit clin d'œil aux îles Galapagos, puisqu'en préparant l'émission, on m'avait dit c'est sans doute le plus beau voyage de ma vie. Alors, nous, on se dit déjà, tout paraît magnifique. Alors, comment ça peut être encore le plus beau?
Alors, en fait, je suis allé aux Galapagos là, au mois d'avril. J'étais déjà allé aux Galapagos il y a 7 ans. J'étais rentré en me disant, j'ai pas envie d'y retourner.
Archipel de l'Équateur, hein, je situe.
Voilà,
juste,
on est juste sur l'Équateur, dans le Pacifique. Donc, c'est en face de la ville, la capitale économique de l'Équateur, à 1000 km au large, qui s'appelle Guayaquil. Et donc, c'est un archipel volcanique. Et donc là, je suis parti pour 15 jours sur un bateau avec, encore une fois, des gens exceptionnels, parce que là, c'était rencontre avec un Rangers qui nous a mis tout en place. C'est-à-dire qu'il nous a vraiment donné les clés de chez lui. Il nous a dit, voilà, vous avez vu que je suis vraiment passionné par les albatros.
Oui.
Il me dit, écoute, on va aller passer plus de temps sur cette île qui est Espagnola, où il y a cette espèce d'albatros que tu veux voir. Et on est arrivé un matin, il y avait de la pluie. On a passé beaucoup plus de temps que prévu. Et encore une fois, les Équatoriens avaient beaucoup de problèmes de surfréquentation de l'archipel il y a 7-8 ans. Ils ont mis vraiment la barre pour arrêter cette surfréquentation. Et c'est un endroit absolument magnifique. Simplement, les animaux n'ont pas de réflexe de fuite. Donc, c'est-à-dire que vous avez tout à la portée de la main. Vous n'avez pas le droit de sortir des chemins, mais vous avez tout sur les chemins. Et ces îles, encore une fois, on y va en bateau. Et ces îles, c'est un premier matin du monde. C'est l'histoire de Darwin, l'archipel de l'évolution. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche matin.
Dimanche à 10h. Oh là là, on l'aurait écouté pendant des heures, mais voilà, je suis obligée de vous laisser, Arnaud. Je vous dis à dimanche 10h au Grand Bivouac à Albertville. Et puis, peut-être prochainement, pour d'autres aventures, vous viendrez nous reparler à nouveau des volcans.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Arnaud Guérin, qui était avec nous cet après-midi.